Orange Cyberdéfense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. It's now.
Bonjour et bienvenue. On est début 2026 et on va plonger dans ce qui s'est passé en décembre dernier dans le cyberespace. Un mois qui a été, on peut le dire, particulièrement explosif. Pour cette analyse, on s'appuie sur le travail du Cyber Intelligence Bureau, une division du laboratoire d'épidémiologie d'Orange Cyberdéfense. Ils ont vraiment épluché des milliers de messages sur les canaux Telegram de divers groupes activistes. Et leur rapport, c'est notre matière première aujourd'hui pour décortiquer ensemble cette véritable cartographie des tensions mondiales.
Oui, et c'est important de préciser d'où vient cette matière justement. Tout ce dont nous allons parler, c'est le fruit d'investigations en source ouverte. C'est ce qu'on appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence. Ce sont des données publiques, accessibles, mais qu'il faut savoir collecter, trier et analyser.
D'accord.
Et notre perspective ici, elle est purement technique. On décode les modes opératoires, les cibles, tout en respectant un principe de neutralité absolue. On ne juge pas, on constate.
Parfait. Alors, allons-y. Le point de départ, si je comprends bien, c'est que le cyberespace n'est plus un monde à part. C'est devenu le miroir quasi parfait de nos conflits bien réels.
C'est exactement ça. Le terme de « miroir » est très juste. L'épicentre de l'activité, sans aucune surprise, est directement lié à la guerre en Ukraine. On observe des vagues d'attaques continues menées par une constellation de groupes pro-russes, non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre tous les pays perçus comme ses alliés.
Et ces alliés, ils sont nommément cités, j'imagine ?
Ah oui, clairement. Dans les sources, on voit passer des listes de pays. La France, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Pologne. Tous sont ciblés explicitement pour leur soutien, qu'ils soient militaires ou financiers, à l'Ukraine.
On a des exemples concrets ?
Bien sûr. Prenons le groupe Noname 01716, qui est sans doute le plus actif du mois. Ils justifient noir sur blanc leurs attaques contre des sites français par l'intention de la France de livrer des avions de chasse Rafale à Kiev. Pour eux, c'est une mesure de rétorsion, c'est direct. De la même manière, un autre groupe, Overflame, annonce cibler la Pologne pour son soutien indéfectible à l'Ukraine. La rhétorique, c'est vraiment « vous aidez notre ennemi, donc vous devenez notre cible ».
Mais ce n'est pas le seul front, on est d'accord? Le conflit israélo-palestinien trouve aussi un écho très fort dans cet univers.
Absolument. Le cyberespace est devenu un théâtre d'opération pour de multiples conflits. On voit par exemple le groupe Dianet publier des commentaires sur les relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, le tout dans le contexte de la situation à Gaza. Un autre acteur, Vulture, partage des messages qui se veulent des analyses de l'état psychologique en Israël face à ce qu'il nomme la « menace iranienne ». Chaque camp utilise le cyberespace pour sa propagande, pour déstabiliser l'autre, quoi.
C'est fascinant cette impression d'un véritable écosystème. On a tendance à imaginer des hackers isolés, mais là, on parle de groupes, d'acteurs. Qui sont-ils vraiment? On peut peut-être dresser une sorte de typologie?
Oui, oui. On peut identifier plusieurs grandes familles. D'abord, la plus visible et la plus bruyante dans nos sources de décembre, la mouvance pro-russe. C'est une véritable galaxie avec des noms qui reviennent sans cesse. Killnet, qui est un peu le groupe historique.
Ah oui, Killnet, on en entend beaucoup parler.
Voilà. Il y a aussi UserSec, Toonet et bien sûr notre fameux Noname 0.56, qui est une véritable machine de guerre en termes de volume d'attaque.
Et en face, j'imagine qu'il y a une riposte qui s'organise.
Il y a une riposte, oui. On voit des messages de ce qui s'appelle l'armée IT d'Ukraine. Leur communication est différente, par contre. Elle est moins dans la revendication d'attaques spectaculaires, elle est plus dans le recrutement de volontaires pour la défense des infrastructures ukrainiennes et pour mener des contre-attaques. C'est une approche qui semble plus centralisée, peut-être plus défensive.
D'accord, donc on a ce conflit principal Ukraine-Russie, mais vous parliez d'autres acteurs aussi.
Tout à fait. On a des groupes clairement alignés sur d'autres causes. Disnet ou Vulture, que j'ai déjà cité, sont sur une ligne pro-palestinienne et anti-israélienne. Et puis on a des phénomènes intéressants, comme le groupe All League, qui annonce en grande pompe le retour de la Moroccan Black Cyber Army. C'est une ancienne cellule qui se réactive. C'est un signe que ces conflits peuvent aussi réveiller de vieux réseaux.
C'est incroyable, cette dimension idéologique. Mais est-ce que c'est vraiment tout ce qui les motive? J'ai du mal à croire que tout le monde fait ça par pur patriotisme. L'argent, il entre en jeu quelque part?
C'est une excellente question, et la réponse est clairement non. Ce n'est pas que de l'idéologie. Et c'est là qu'on arrive à une autre catégorie d'acteurs, ceux aux motivations beaucoup plus floues, ou ouvertement crapuleuse. Le groupe Pharaoh's Team Channel, par exemple, c'est un cas d'école. Ils se drapent parfois dans un discours politique, mais leur activité principale, c'est de vendre des accès à des serveurs piratés. Ce qu'on appelle des web shells, c'est du business pur et simple.
Juste du business ?
Exactement. D'autres, comme HK Gang, partagent des failles de sécurité pour obtenir des abonnements gratuits à des services en ligne. C'est de la petite délinquance, en fait. Et puis, il y a des cas comme GhostSec, qui ressemble plus à un forum, une communauté où l'on discute de tout, y compris de l'achat de bases de données volées.
On a donc toute une ménagerie d'acteurs, des idéologues aux simples opportunistes. Et j'imagine qu'ils ne travaillent pas tout seuls dans leur coin. On observe des collaborations, des alliances...
C'est un point absolument crucial pour comprendre leur efficacité. L'activisme moderne, ce n'est pas une somme d'actions individuelles. C'est un sport d'équipe. No Names de 516 annonce fièrement sur son canal une nouvelle alliance avec un autre groupe pro-russe, Dark Warriors. UserSec, un autre groupe très actif, opère carrément sous la bannière de Killnet.
Ah oui, d'accord.
Ces alliances leur permettent de mutualiser leurs ressources, leurs compétences et surtout leurs forces de frappe. Ça leur permet de mener des attaques plus massives et plus coordonnées. On insiste à une sorte de professionnalisation de ces groupes, quoi.
D'accord. L'organisation est plus sophistiquée qu'on ne le pense. Mais concrètement, quand ils attaquent, ça ressemble à quoi ? On entend beaucoup parler de cyberattaque, mais qu'est-ce que c'est vraiment ?
Alors, la méthode la plus répandue, celle qui représente probablement plus de 90% des attaques revendiquées, c'est l'attaque par déni de service distribué, le fameux DDoS.
Le DDoS, oui.
L'objectif est simple et brutal. On inonde un site web avec des milliers de requêtes en même temps jusqu'à ce qu'il s'effondre. Il devient inaccessible. C'est la signature de NoName0516. Ce n'est pas très complexe techniquement, mais c'est très visible et très efficace pour perturber.
Mais ce n'est pas seulement une question de rendre des sites inaccessibles, si. J'ai vu dans les sources des termes comme « défiguration de site » ou même « fichier chiffré ». Là, on passe à un autre niveau.
Exactement. On sort de la simple perturbation pour entrer dans la dégradation, voire la destruction de données. Pharaoh's Team, par exemple, se vantent de faire de la défiguration, c'est-à-dire qu'ils remplacent la page d'accueil d'un site par leur propre message. C'est très symbolique. Et quand ils parlent de fichiers chiffrés, ça ressemble énormément aux techniques des rançongiciem.
Mais la revendication qui m'a le plus marqué, c'est celle qui concerne les systèmes industriels.
Oui, alors là, il faut qu'on s'arrête sur ce point, parce que c'est un changement de nature fondamental. Ce n'est plus juste un site web qui tombe. Des volontaires d'un groupe affilié à NoName077, le DDoSia Project, prétendent avoir obtenu des accès à des systèmes de contrôle industriel, ce qu'on appelle des systèmes SCADA ou ICS. Ils publient des captures d'écran, vraies ou fausses, on ne sait pas toujours, mais montrant des panneaux de contrôle pour la gestion du gaz en France, une centrale en Italie ou des systèmes de traitement des eaux.
C'est absolument terrifiant. Même si c'est du bluff, le simple fait de le dire change complètement la nature du jeu. Ce n'est plus l'information qui est visée, c'est le monde physique.
C'est précisément ça. Que les revendications soient avérées ou non, elles franchissent une ligne rouge psychologique. La menace, ce n'est plus la perte de données, mais potentiellement la coupure de l'eau, du gaz, de l'électricité. C'est une menace d'un tout autre niveau.
Et quand on regarde la liste des cibles, c'est ça qui frappe. On passe d'une préfecture à une entreprise de transport, puis à un armurier. Ça n'a ni queue ni tête à première vue. Est-ce qu'il y a une logique derrière ou est-ce que le but est simplement de semer le chaos ?
Il y a une logique, mais elle est multiforme. Le but est à la fois de frapper des symboles et de perturber le quotidien. Regardons les cibles par secteur. Pour le gouvernement, ils ont visé des portails de régions françaises, comme la Seine-Maritime ou les Bouches-du-Rhône, des préfectures. Des cibles très symboliques.
Et pour les infrastructures critiques, la France semble avoir été particulièrement touchée.
Oui, dans le cadre de leur campagne qu'ils ont baptisée hashtag Hope France, NoName0517 a ciblé le métro de Rennes, plusieurs aéroports français et même Getlink, l'opérateur du tunnel sous la Manche. Ils ont aussi visé le secteur de l'énergie en Finlande ou la bourse des céréales en Ukraine. Chaque attaque vise à perturber un service essentiel.
Et le secteur de la défense, bien sûr, n'a pas été épargné.
Loin de là, c'est une cible de choix. En France, ils ont attaqué le site du GICAT, le groupement des industries de défense, mais ils sont aussi allés dans le détail en ciblant des entreprises comme Lacroix, un spécialiste de la pyrotechnie, ou l'armurier Chapuis Arms. Le message est très direct. Nous frappons ceux qui arment notre ennemi. C'est une logique qu'on retrouve avec des cibles comme les chantiers de l'Atlantique, un symbole de la puissance industrielle française.
Pour coordonner tout ça, ils doivent bien avoir un QG virtuel et les sources pointent toutes dans la même direction, l'application de messagerie Telegram.
C'est bien plus qu'un QG, c'est leur écosystème. Ils y font absolument tout. C'est là qu'ils revendiquent leurs attaques, en postant des preuves, des captures d'écran ou des liens vers des services qui vérifient si un site est bien hors service. C'est leur salle de presse. C'est aussi leur bureau de recrutement. Et c'est leur place de marché. Le groupe Dynet y fait la promotion de son propre outil d'attaque, WebSarm. C'est un univers qui fonctionne en quasi-autarcie.
Et c'est justement en analysant ces conversations qu'on découvre une autre facette. Derrière les grands discours géopolitiques, on entrevoit des motivations beaucoup plus humaines. Et parfois, beaucoup moins glorieuses.
C'est ça qui rend l'analyse de ces canaux si fascinante. L'idéologie, le cyberpatriotisme, c'est la vitrine. Mais en coulisses, l'ego est un moteur surpuissant. On assiste à des querelles publiques entre groupes. Dynet, par exemple, traite un groupe rival de scripts qui disent. Dans leur jargon, c'est l'insulte suprême. Ça veut dire que ce sont des amateurs qui ne font que réutiliser les outils des autres sans rien comprendre.
Il y a une recherche de réputation.
Exactement. On voit aussi des hackers comme un certain Shadow X de Feroz Team qui signe personnellement ses méfaits comme un graffeur qui tague un mur. C'est une quête de célébrité dans leur microcosme.
Et j'ai même lu une conversation sur le canal de GhostSec qui était glaçante. Ça allait beaucoup plus loin que la simple rivalité.
Oui, cet exemple est extrême, mais révélateur. Un membre expose en détail la vie privée d'un autre hacker. Son adresse, ses problèmes avec ses voisins, ses dossiers médicaux, même des détails intimes sur ses parents. On quitte complètement le champ de la géopolitique pour entrer dans le harcèlement le plus brutal, la destruction personnelle. Ça montre que derrière les pseudonymes, il y a des dynamiques humaines parfois très sombres. Des vengeances, des règlements de compte qui n'ont plus rien à voir avec la cause affichée.
C'est vertigineux. On a donc des opérations quasi militaires et juste à côté des querelles d'adolescents et des motivations financières. Les frontières semblent totalement poreuses.
Elles le sont, et c'est toute la complexité du phénomène. La ligne entre le cybersoldat qui agit par conviction, le cybercriminel qui cherche le profit et le jeune hacker en quête de reconnaissance est de plus en plus floue. Souvent la même personne peut être les trois à la fois.
Alors, si on prend un peu de recul, que faut-il retenir de ce mois de décembre 2025 ? Quelle est la grande image qui se dégage ?
L'image d'un champ de bataille définitivement hybride. L'activisme, ce n'est plus du folklore. C'est devenu un outil de pression géopolitique à part entière. Il est utilisé pour perturber, pour propager un message et pour mener une guerre psychologique. Et ce qui a tout changé, c'est la facilité d'accès aux outils. L'allocation de botnets, ces réseaux d'ordinateurs zombies, a en quelque sorte démocratisé la cyberguerre à petite échelle.
On assiste donc à une superposition. Une sorte de millefeuille où se mélange une cyberguerre idéologique, de la cybercriminalité classique et des démonstrations de force juste pour la gloire.
C'est la définition parfaite. Et la conséquence, c'est que la distinction entre un acteur étatique, un groupe de patriotes indépendants et des cybercriminels qui surfent sur un conflit, eh bien, cette distinction devient presque impossible à faire. C'est le visage de la conflictualité moderne, ambiguë, multiforme et qui se joue sur des terrains à la fois très publics est totalement invisible.
Et cela nous laisse avec une dernière pensée, une dernière interrogation. On a commencé en parlant de sites web inaccessibles et on termine avec des menaces sur la gestion de l'eau, du gaz, de l'énergie. Si une attaque par déni de service est perturbante, la manipulation potentielle de ces systèmes industriels, elle, représente une menace physique bien plus tangible. La question qui reste en suspens est donc la suivante. Quelle est la part de menace crédible par rapport à la propagande numérique et à quel point nos secteurs les plus critiques sont-ils réellement préparés à cette nouvelle réalité ?
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange, cyberdéfense.